Ok, donc on démarre à la page 6. D'accord. Page 6, Mishnah 6 du chapitre 1. A Omer, ten gedze le ishti ou shtar shirhoze le avdi. Donc une personne qui dit à un shliach, donc il dit à un shliach, ça veut dire donc il va demander à un émissaire, d'accord, il va missionner quelqu'un pour lui dire, ten gedze le ishti, donne ce get à ma femme, ou shtar shirhoze le avdi, hein, ou bien ce certificat donc de libération à mon serviteur. Donc la Gemara explique qu'il faut bien faire attention au langage qu'il dit ici. Il a employé le langage ten. Ten, ça veut dire donne, d'accord. Et quand je prends un objet et je le donne dans la main de quelqu'un et je lui dis donne-le à quelqu'un d'autre, ça veut dire que par cette phrase là même, je l'ai rendu mon shliar, je l'ai rendu mon émissaire. Donc maintenant, c'est comme si je lui donnais une procuration, qu'il le fasse à ma place. Imratsal hazor vishneem, ya hazor. Dans les deux cas. Donc que ce soit pour le get d'une femme, ou que ce soit pour le certificat de libération d'un esclave. Imratsal hazor vishneem, s'il a voulu regretter dans les deux, donc avant que le get est arrivé dans la main de la femme. Par exemple, on a un mari qui est à Paris, et qui prend, il va demander à un ami à lui, il va lui dire, prends ce get là, tu vas à Lyon, donne-le à ma femme qui est à Lyon. Et quand il est en chemin, dans le TGV, il appelle, il lui dit, j'annule la procuration, tu ne donnes rien du tout. Maintenant l'autre dit, non, c'est trop tard, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Rabbi Meir? Rabbi Meir nous dit, dans les deux cas, im ratsal achzor bishneem, yachazor. S'il veut regretter, dans les deux cas, il peut regretter. Ça veut dire, si tant que le get n'a pas été donné, et tant que le certificat de libération de l'esclave n'a pas été donné, il peut regretter, pas de problème. Vachamim amrim, chachamim lui disent, Begite Nashim avalo beshichura avadim. Chachamim disent, on peut regretter uniquement dans un get, dans le get d'une femme, mais pas dans le shichura avadim, pas dans le certificat de libération. La Gemara explique ça de la manière suivante. Elle dit que quand je vais voir mon ami, je suis à Paris, donc je rappelle le cas, je suis à Paris, et je vais voir mon ami, je lui dis, donne ce get-là à ma femme. La Gemara, elle considère qu'à ce moment-là, le fait que j'emploie le terme donne ce get-là à ma femme, c'est comme si que maintenant, cet émissaire-là est devenu l'émissaire de ma femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main de cet émissaire est devenue comme l'émissaire de ma femme. C'est le principe qu'on va expliquer tout de suite. De Zachin le Adam Shelo Befanav, on peut faire mériter quelqu'un même si on n'est pas devant lui. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que si par exemple, imaginez-vous, je prends une somme d'argent, peut-être avec une somme d'argent ça va être plus compréhensible. Non. Je sais pas s'il explique ici dans les notes, je vois qu'il y a des longues notes. Bon. Je vous donne, peut-être avec une somme d'argent, ce sera plus compréhensible. Imaginez-vous que je vais voir quelqu'un, voilà, je vais voir M. Benichou, d'accord ? Je dis Monsieur Benichou, je vous donne 1 000 euros dans la main, et vous allez le donner à Julien. À partir du moment où je dis, puisque pour Julien, recevoir 1 000 euros de ma part, c'est un mérite, non ? Oui. D'accord. Donc puisque c'est un mérite, c'est quelque chose de. Ça veut dire c'est quelque chose. Quand je dis un mérite, c'est-à-dire c'est quelque chose de bien, c'est pas une galère, c'est au contraire, il est content. Donc à ce moment-là. Quand j'ai donné les 1000 euros dans la main de M. Benichou, la main de M. Benichou est devenue comme la main de Julien. Donc, est-ce que je peux regretter? Non, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que Julien aurait été d'accord que M. Benichou les prenne à sa place. Donc, quand M. Benichou les a pris, c'est comme si Julien les a pris. Donc, c'est trop tard. Si maintenant je vais récupérer les 1000 euros, je dois aller voir Julien. Mais, si ce serait une galère pour Julien, c'est-à-dire si c'est pas 1000 euros, si par exemple, c'est le contraire, c'est pas quelque chose qui l'a intéressé, c'est quelque chose que Julien n'est pas forcément d'accord, là, dans ce cas-là, tant qu'on n'a pas eu le consentement direct de Julien, la main de M. Benichou est considérée comme ma main à moi, mais pas comme la main de Julien. Donc on reprend dans le cas du get, avec ça on comprendra un peu mieux. Dans le cas du get, je donne un get à quelqu'un. D'accord ? Donc un mari donne un get dans la main de quelqu'un, il lui dit tu vas le donner à ma femme qui est à Lyon. Est-ce que pour une femme être divorcée c'est un mérite ou un mal, d'après vous ? Voilà, c'est ça. Hein ? Et voilà, il y en a qui ont compris la question. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que c'est un bien ou un mal ? Alors on a eu le premier avis qui était l'avis de Rabbi Meir, et Rabbi Meir a dit dans tous les cas c'est bon. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rabbi Meir, lui qu'est-ce qu'il considère ? Dans tous les cas on peut regretter, c'est-à-dire que Rabbi Meir il considère dans tous les cas que c'est un
mal.
Que c'est un mal et pour l'esclave, qu'un esclave finalement il est toujours mieux chez son maître, d'accord ? Et parce que il est nourri, logé, et pour une femme aussi. D'accord ? Pour une femme aussi c'est toujours mieux d'être chez son mari. C'est le premier avis qu'est Rabbi Meir. Bien sûr, parce qu'on dit qu'une femme, la Gemara a dit qu'une femme, enfin, je sais pas, à l'époque c'était comme ça en tout cas. On dit qu'à l'époque les femmes elles étaient prêtes à se marier avec n'importe qui parce qu'elles préfèrent habiter avec quelqu'un qu'être veuve. Veuve, ça veut dire qu'être pas mariée. Bon, c'était comme ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, faut pas oublier que À l'époque, une femme qui n'était pas mariée, elle n'avait pas de situation. Hein. C'est pas comme aujourd'hui que peuvent vous vivre mieux que des hommes célibataires. Donc, selon Rabbi Meir, c'est une galère pour les deux, pour l'esclave et pour la femme. Donc c'est pour ça que tant que la femme et l'esclave n'ont pas reçu, tant qu'ils n'ont pas reçu le guet ou le certificat de libération, eh ben qu'elles on considère que c'est comme si l'acte n'a pas encore été fait. Mais Chachamim disent, dans le guet d'une femme, effectivement, le mari peut regretter, mais dans la libération d'un esclave, on ne peut pas regretter. Pourquoi ? Donc, dans les mots de la Mishnah, les filles chez Zachin le Adam, vous savez les mots ? Les filles, donc la ligne qui commence les filles. Les filles chez Zachin le Adam chez l'Obefanav, puisqu'on peut faire mériter quelqu'un chez l'Obefanav quand il n'est pas devant nous, en Chavin lo et la Befanav, par contre, on ne peut lui Chavin, comment il traduit Chavin ici ? On peut le désavantager, très bien, bonne traduction, chez l'Obefanav quand on n'est pas devant lui. D'accord, pardon, et la Befanav. Donc on ne peut le désavantager seulement s'il est devant nous. C'est un principe qui s'applique dans toute la Torah. Ça. Que pour avantager quelqu'un,
on peut se passer de sa présence.
Alors que pour désavantager quelqu'un, il faut obligatoirement qu'il soit là. Et ça, c'est un principe qui s'applique dans toute la Torah. Partout.
Mais il faut encore savoir ce que c'est. Savoir si l'acte désavantage ou avantage.
Voilà, c'est ça le problème. Il faut. Je vous donne un exemple, d'accord. Par exemple, j'ai entendu récemment ce cas-là. Vous savez, des fois, ça arrive à la synagogue. On veut demander Miché Bérard pour quelqu'un. Donc, on demande Miché Bérard, ok. La personne pour qui on demande Miché Bérard n'est pas là. Il est malade. Ok, donc on demande comment il s'appelle. On nous répond, on nous dit Jacques Ben Yitzhak. Alors, tout de suite, il y a ceux qui vont dire oui, Jacques, ça correspond à quel prénom en hébreu ? Jacques. Yaakov. Ah, tout de suite, ceux qui vont dire, oui, Jacques, c'est Yaakov. D'accord ? Ou bien Isaac, si vous voulez. Il y a un problème. C'est un problème de le faire. Pourquoi c'est un problème ? Parce que peut-être que la personne n'a pas de prénom hébraïque, et peut-être que la personne n'aime pas ce nom. Donc c'est un désavantage que tu es en train de lui faire. Tu fais un désavantage, et un désavantage, tu peux le faire que s'il est là. Vous voyez comment ça va très très loin, ce principe-là. Le principe d'avantage et désavantage, ça peut aller très très loin. Mais alors que pour avantager quelqu'un, là, on n'a pas besoin qu'il soit là. Pas besoin qu'il soit là, même s'il n'est pas là, tu peux l'avantager. C'est un principe qui s'applique dans le mariage, dans les contrats, dans tout ce que vous voulez. Le principe que pour avantager quelqu'un, il faut qu'il, même s'il n'est pas là, c'est bon. Mais pour désavantager quelqu'un, il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, c'est pas bon. Donc on va reprendre notre cas. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim ? Chachamim, ils disent, pour nous, que le fait qu'un esclave soit libéré, c'est un avantage. Donc même si l'esclave n'est pas devant nous, quand M. Benichou a pris de ma main le contrat, l'esclave est intéressé à ce que M. Benichou a pris le contrat à sa place. Donc, c'est considéré comme si la transaction est déjà faite. Donc, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Pour le guet d'une femme, est-ce que c'est bon ? Non, c'est pas bon. Parce que le guet d'une femme, le fait qu'une femme soit divorcée, c'est pas un bien pour elle, c'est un mal. Alors, bien sûr, vous allez tous me dire, mais il y a des cas dans lesquels c'est un bien pour elle. Dans ce cas-là, effectivement, la question ne se posera pas. Mais dans la grande majorité des cas, surtout à l'époque, dans la réalité de l'époque, le fait qu'une femme était divorcée, c'était pas un bien pour elle. C'était ce que le mari disait, ça y est, tu me casses les pieds, et divorcé, c'est tout. Non, c'est pas un bien pour elle, c'est pour ça que elle voulait jamais être divorcée. C'était une galère pour elle de divorcer. Voilà. Donc d'où l'avis de Chachami. Alors, chez Imirtse chez Lolazun et Tavdo Rachai, mais chez Lolazun et Tishto Eino Rachai. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il nous explique encore une deuxième raison. Il dit pourquoi on considère que c'est une perte pour l'esclave, parce que l'esclave, qu'est-ce qu'il a gagné ? Ils ont un point de vue très intéressant. Ils disent, qu'est-ce qu'il va gagner l'esclave ? L'esclave, qu'est-ce qu'il va gagner en étant chez son maître ? Allez, on analyse ensemble.
La liberté.
Non, en étant chez son maître, qu'est-ce qu'il gagne ?
En étant chez son maître, nourriture.
Nourriture, très bien. Le problème, c'est que le maître, même quand l'esclave reste esclave, le maître peut dire à l'esclave, il peut lui dire, je ne te donne plus à manger. Alors quoi, de quoi il va vivre ? Je ne donne plus à manger, tu vas travailler. Est-ce que tu vas travailler, tu vas te nourrir avec ça et le reste c'est moi qui prends. Il a le droit de dire ça.
C'est un contrat au départ.
Non, il peut dire quand il veut. Un esclave peut dire quand il veut. Donc, non, d'après ça, est-ce que l'esclave a perdu quelque chose quand on le libère ? Ben non. Puisque si tu me dis qu'il a perdu la nourriture, il aurait pu la perdre avant aussi en étant esclave, donc il n'a pas perdu. Alors chez la femme, on ne peut pas faire ça. La femme, le mari ne peut pas dire à la femme, tu te donnes pas à manger. Et tu te débrouilles, t'as qu'à travailler. Il peut pas le dire. Par contre, la femme, elle peut dire ça. La femme peut dire ça. La femme peut dire, je travaille, d'accord. L'argent que je gagne, je me paye avec ma nourriture, tout ce que j'ai besoin, et je le donne pas. Ça, la femme peut dire. Mais le mari ne peut pas lui dire. Vous suivez ?
Même aujourd'hui.
Le mari ne peut pas dire à sa femme, tu vas travailler et tu me laisses tranquille. D'accord ? Il ne peut pas le dire. Il n'a pas le droit de dire ça. La femme, si elle veut, elle peut dire au mari, je préfère faire comme ça. Pas de problème. Bon, et on a des comptes séparés, on a tout ce qu'il faut, ça existe aujourd'hui. Mais le mari ne peut pas dire ça à la femme. Donc la femme, puisque le mari ne peut pas dire ça à la femme, tant que la femme était mariée, ben, elle était nourrie. Et nourrie, logée, etc. Une fois qu'il va la divorcer, donc on considère, puisque la femme ne peut pas faire quelque chose, on considère que c'est une chova, que c'est un désavantage.
Le mari qui perd quelque chose.
Pourquoi il perd ?
Qui c'est qui cuisine ?
La femme,
c'est
non ?
Qu'on a plus à manger après. Donc c'est la femme qui cuisine. Oui.
D'accord, mais le mari, il a divorcé, il fait ce qu'il veut, il a décidé de divorcer maintenant.
Il y aura au restaurant, David.
Donc, Shi Mirtse, chez le Zunat Avdo, Rachai. Mais Veshelos no tishto no rachai. Ah Marlaem. Donc ça c'est. Donc là vous avez vu, on a eu clairement un dialogue entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir il considère que même pour un esclave, le fait d'être libéré c'est un désavantage. Alors que Chachamim font la différence entre une femme, entre le guet d'une femme et entre un esclave. Ils disent que pour un esclave c'est un avantage d'être libéré, alors que pour une femme c'est un désavantage. Alors on a eu un dialogue dans la suite, la Mishnah nous raconte. On a eu un dialogue entre Rabbi Meir et Chachamim. Ah Marlaem. Rabbi Meir il leur a dit à Chachamim. Il leur a dit, mais va ou possel et avdo minatruma keshem chez ou possel et tishto. Il dit, mais non, moi je vais vous trouver quelque chose que l'esclave peut perdre en étant libéré. Parce que encore une fois, on essaye de voir en quoi. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Chachamim, ils ont dit, tu perds rien de toutes les façons. Parce que de toutes les façons, même si tu le, même sans le libérer, t'aurais pu l'empêcher de lui donner à manger. Donc, il a rien perdu. Chachamim dit, si, il a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose parce que à cause de toi maintenant. Si le maître était Cohen, l'esclave pouvait manger de la terouma. Vous savez, la terouma, c'est ce qu'on doit prélever de la récolte, on le donne au Cohen. Le Cohen a le droit de le manger, il a le droit de le donner à ses enfants, sa femme, ses enfants, et cet esclave. Cet esclave-là, une fois qu'il sera libéré, est-ce qu'il pourra continuer à manger de la terouma? Ben non, parce qu'il n'est plus esclave d'un Cohen. Donc il a perdu quelque chose. On a trouvé quelque chose qu'il a perdu. La question de Rabbi Meir. Va reposer la taf de mina terouma, que j'aime chez vous poser la tishto. Il dit, ben voilà, il perd quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, la femme, elle a perdu à manger, elle peut plus manger. Ben voilà, l'esclave aussi, il va perdre la terouma si c'est un cas que le maître est un Cohen. Amroulo. Ils lui ont répondu, Rami, ils lui ont dit non. Ils lui ont dit, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi? Mipne, chou, kinieno. D'accord? Il dit comme ça. Il dit, mipne, chou, kinieno, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le fait qu'un esclave qui est Cohen peut manger de la terouma, pourquoi il peut manger de la terouma? C'est pas un droit que l'esclave a. Faut pas le prendre de ce sens-là. C'est du fait que l'esclave appartient à son maître, et que tout ce qui appartient au maître a le droit de profiter de la terouma. C'est pour ça que l'esclave a le droit de manger. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien faire la différence. C'est ça dans le droit hébraïque, on fait souvent la différence. Entre, quand, par exemple, voilà, l'esclave, il mange la terouma. Est-ce que c'est un droit que l'esclave a? Ou est-ce que c'est quelque chose que l'esclave en bénéficie parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il en bénéficie? Parce que, par exemple, c'est l'esclave d'un maître qui est Cohen. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si tu me dis que c'est un droit que l'esclave a, dans ce cas-là, qui dit droit, dit que pour me l'enlever, tu vas devoir t'accrocher. Mais si tu me dis que c'est pas un droit, tu dis que t'as pas de droit, t'as jamais eu de droit, seulement comme t'es mon esclave, t'as le droit de manger ce que je mange. Dès que t'as plus mon esclave, tu peux plus. Donc Rachamim, il voit la chose de cette manière. Eux, ils disent, on considère même pas ça comme un droit. Donc ni il a gagné, ni il a perdu. Il a jamais rien gagné, jamais rien perdu. Sauf que quand il était esclave de son maître, alors son maître a le droit de lui donner ce que lui mange. Mais ça a jamais été un droit de l'esclave. Puisque jamais été un droit.
Le fait de pouvoir, ça ne peut pas un droit.
Voilà, exactement. Le fait de pouvoir, c'est pas forcément un droit.
Est-ce que le maître a refusé de lui donner?
Est-ce que
ce n'est pas un droit de possession.
Voilà, c'est pas un droit de possession. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas réellement dire que l'esclave, en étant libéré, va perdre quelque chose. Il va pas perdre un droit. Oui.
Est-ce que le maître peut refuser de lui donner la terouma à un moment ou à un autre?
Il fait ce qu'il veut, il peut lui donner à manger ce qu'il veut, mais l'esclave peut dire, avant je pouvais manger la terouma, maintenant je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il va lui répondre le maître? Le maître va lui dire que ce n'était pas un droit. C'était comme tu étais mon esclave, comme tu m'appartenais, donc tout ce qui m'appartient a le droit de profiter de la terouma, mais c'est pas en tant que droit. Donc c'est pour ça vous avez vu comment on a une manière différente de voir les choses entre Rabbi Meir et Rachamim. Rabbi Meir voit ça comme un droit. D'après moi, c'est un droit.
Donc, à l'arrivée, c'est pareil. Il perd quelque chose.
Oui, mais c'est pas la même chose. Même dans le droit, goy, c'est pas la même chose. Comme il t'a dit, il y a pouvoir et il y a droit, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose?
D'accord.
C'est vrai que la terouma qu'il va manger va être la même, mais pour faire sauter ce droit-là, c'est pas la même chose. Si c'est un pouvoir, tu comprends? Si c'est un pouvoir, c'est un pouvoir, c'est pas un droit. Je te donne un exemple.
On a compris, mais Rabbi Meir, il dit qu'il va perdre quelque chose.
Regarde, imagine-toi que tu as un fleuriste qui s'installe en bas de chez toi. D'accord ? Et que l'odeur des fleurs monte jusqu'à chez toi à la maison. Donc tu profites de l'odeur des fleurs. Un jour, le fleuriste dit, ça y est, je m'en vais. D'accord ? Voilà. Un jour, le fleuriste dit, ça y est, je m'en vais.
Donc tu fais un procès parce que...
C'est un procès, tu dis, non monsieur, c'est un droit. J'ai profité de l'odeur, je veux continuer à profiter de l'odeur. Vous vous débrouillez, vous faites un autre magasin si vous voulez, mais vous laissez ce magasin. Qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Il va dire, non monsieur, ça marche pas comme ça. C'est vrai que vous avez senti cette odeur pendant longtemps, mais c'était pas un droit. C'est la même chose que, selon Khamis, c'est la même chose que le maître dit à l'esclave. Oui, maître, il dit la même chose à l'esclave. Il dit, tu as profité de ce que je profitais parce que tu étais chez moi, parce que j'étais Cohen, mais c'est jamais, ça n'a jamais été un droit. Donc, quand je te libère, tu n'as rien perdu, rien gagné. Tu as profité, au contraire. Sois content que tu as profité et reste tranquille maintenant. Donc, il n'a rien perdu. Donc, Mahloket, Rabbi Meir et Rachamim. Rabbi Meir, il voit ça comme un droit. Rachamim, il voit pas ça comme un droit, mais il voit ça comme un pouvoir. Continue la Mishnah.
Ce que je comprends pas, c'est que droit ou pas droit, à l'arrivée, tu perds quand même quelque chose.
Oui, mais tu ne perds pas. Ça veut dire que juridiquement, ça vaut rien. C'est ce que je veux dire. C'est que juridiquement, ça, l'esclave, c'est pas un argument. L'esclave n'a pas utilisé cet argument pour dire j'ai perdu quelque chose. On dit t'as rien perdu, ça t'a jamais appartenu.
Est-ce que c'est pareil pour la nourriture ?
Oui.
La nourriture, c'est pas un droit dans ce cas-là.
Mais sauf que la nourriture, hein, la nourriture, comment il appelle ça ? La nourriture, le maître, il peut dire à l'esclave, il peut lui dire je peux ne pas te nourrir. Donc le fait qu'il a libéré, ça n'a rien changé, puisque le fait de ne pas le nourrir, on aurait pu le faire avant aussi.
Okay.
D'accord ? Voilà. A Omer, Tnu get zelishi. Continue la Mishnah. Celui qui dit, donnez ce guet à ma femme, ou shtar shirose l'avdi. Donc pareil, le même cas qu'avant. Donc là, de quoi on parle, la Gemara explique qu'on parle d'un cas ici, on a quelqu'un qui est Shriv Mira. Shriv Mira, ça veut dire un malade très grave, agonisant. Il faut savoir que dans la halakha, un malade agonisant, de manière générale, vous savez très bien que dans la halakha, toujours, pour toute chose importante, il faut un contrat. Je pense que c'est comme ça dans le droit français aussi, dans le droit goy. Dès qu'on veut faire une chose importante, une acquisition, tout ce que vous voulez, d'accord, un héritage, il faut un contrat. Et on fait pas les choses à l'oral. Il y a une seule exception. Dans la Torah, c'est la même chose. Tout doit être fait avec un contrat, avec des témoins, en bonne et due forme. Il y a une exception. C'est quoi l'exception ? L'exception, c'est le Shriv Mera. Shriv Mera, c'est une personne qui est agonisante. Il sent qu'il va bientôt partir, et il a envie de Dieu préserve, d'accord, et il a envie de dire, voilà, vous donnerez ça à tel enfant. Le problème c'est quoi ? C'est que si on va lui dire attendez, écoutez, il faut qu'on amène le scribe, il faut qu'on amène le contrat, il faut qu'on amène les témoins, etc. Tout d'abord, il risque de mourir, entre temps, premièrement. Et deuxièmement, la peine qu'il va avoir, c'est un moment dans lequel la peine joue énormément, la peine qu'il va avoir de ne pas pouvoir arriver à ses fins tout de suite, peut le faire mourir plus rapidement. Malheureusement, on l'a déjà vu. D'accord ? Comment ? Une personne à ce moment-là, il faut lui donner tout de suite ce qu'il demande. Et si tu lui donnes pas, la peine, ça peut le faire mourir, Dieu préserve. Donc c'est pour ça que c'est la seule exception dans la Torah dans laquelle on dit que le Shriv Mera, une personne qui est agonisante, sa parole fait office de contrat. C'est-à-dire que sa parole, c'est comme si qu'il y avait un contrat qui était écrit. Très bien. Donc, maintenant on comprend le cas. Donc une personne qui est agonisante. Personne qui est agonisant, bon, ça va être un peu bizarre comme cas quand même, hein, regardez. Il a dit, Tenu getze le ishti ou shtar shirose le avdi. D'accord ? S'il a dit avant de mourir, il a dit, donnez ce get à ma femme. Et donc il avait un get tout prêt. Et avant de mourir, le gars, il voulait, je sais pas, il voulait se faire un kiff. On verra après pourquoi il voulait faire. Hein. Il a dit, donnez ce get à ma femme et libérez mon esclave. Bon. Va mettre et il est mort. On n'a pas eu le temps de donner le get. On n'a pas eu le temps de donner le get à la femme et de donner le contrat à l'esclave et il est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant, vous comprenez que ça va tout changer. Pourquoi ça va tout changer ? Parce que, est-ce que sa femme aura le statut d'une femme divorcée ? Si elle était divorcée, il n'y a pas d'héritage. Eh oui. Il est fini, il n'y a plus d'héritage. Ouais. Ça change tout. Si elle est divorcée, il n'y a plus d'héritage. Si elle est divorcée, ça change tout.
D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le problème, attention, n'oubliez pas, le guet n'a pas encore été donné.
Au chaliar ?
Non, il a donné le guet au chaliar.
Bon.
Mais le chaliar n'a pas encore donné le guet à la femme.
Il n'a pas encore remis.
Attends, alors, regarde bien. Si il dit Tenu Getzelich, qu'est-ce que nous dit la Mishnah ? Il dit Loitnu la Harmita. C'est-à-dire on ne donne pas le guet après la mort. Pourquoi ? Parce qu'on considère que, selon tout le monde pour l'instant, d'accord ? Loitnu la Harmita, pourquoi on ne donne pas après la mort ? Parce qu'on considère qu'une femme ne peut pas être divorcée après la mort de son mari. Même s'il était en instance et que ça a déjà commencé, qu'il y a eu procuration, tout ce que tu veux, mais l'acte du divorce ne peut pas être fait de la mort de la personne qui est en train de divorcer. Donc on peut pas. D'accord ? Ça veut dire que
dans les deux sens,
donc techniquement il y a un problème ici. D'accord ? Voilà. Donc lo itnu la harmita, on ne peut pas le donner, on peut pas le donner après la mort. D'accord? C'est la même chose d'ailleurs également pour le cas d'un esclave. D'accord? Une personne qui est morte ne peut pas libérer un esclave. C'est-à-dire même si on a démarré l'instance, mais il faut qu'au moment de l'acte, la personne qui libère ou la personne qui divorce soit vivante. Donc la femme est considérée comme une femme mariée. En passant, je vais vous donner un cas quand même dans lequel pour vous montrer comment c'est pas forcément par méchanceté que le mari a divorcé sa femme juste avant de mourir. Qu'il avait que ça à faire.
Il a des dettes, par exemple.
On peut avoir plusieurs cas. D'abord, on peut avoir un cas si le mari avait des dettes. D'accord ? Le mari avait des dettes. Et imaginons que dans le get, dans l'acte de divorce, il dit je divorce ma femme et il dit je lui donne 100 000 euros. Et il sait qu'il a 100 000 euros dans le compte, donc il sait que ça partira pas dans les dettes. Premier exemple. Deuxième exemple que je peux avoir, un exemple qui est ramené dans la Mishnah. Pas cette Mishnah, mais qui est ramené ailleurs. Un mari qui est mort sans laisser d'enfant. Vous savez très bien que si le mari a un frère, la femme doit se marier avec son frère. Maintenant, le mari, il sait que sa femme ne supporte pas son frère. Mais elle sera obligée de se marier avec lui. Elle n'a pas le libre arbitre. Si le frère veut se marier avec elle, elle peut rien dire. Il sait que sa femme ne supporte pas son frère.
Oui, mais le frère peut y renoncer quand même.
Le frère peut y renoncer, mais il sait que sa femme ne le supporte pas. Et il va pas l'embêter.
Il va pas lui donner. D'accord. Il a fait divorcer avant.
Vous voyez, ça peut être des exemples pour nous montrer pourquoi une personne voudrait divorcer sa femme juste avant de mourir. Et je conclue. S'il dit Tenu Manel Ishploni, va mettre. Quelqu'un dit donnez. D'accord. Alors écoutez bien ce qu'on dit maintenant, le cas qu'on dit ici. Tenu Manel. S'il dit donner un manet, c'est quoi un manet?
112.
Donc c'est la monnaie de l'époque. Donc si quelqu'un avant de mourir, il dit, pareil toujours un shriv mera, il est agonisant, et il dit donner un manet à un tel, avant de mourir, il n'y a pas de contrat, pas rien. Va mettre et il est mort, qu'est-ce qu'on fait?
On donne.
Pourquoi?
Positif.
Itnou la ram... Non, c'est pas bon. Itnou la ramita, on donne après la mort. Pourquoi on donne après la mort? On n'a pas encore donné.
112.
Non, très simple, parce que en vérité, même dans le get normalement, même dans le get et même dans l'acte de libération, normalement, on aurait pu le donner après. Normalement, on aurait pu le donner après la mort. Pourquoi on n'aurait pas pu le donner après la mort? Parce qu'on avait un problème technique. Le problème technique qu'on avait, c'est que pour libérer et pour divorcer, il faut que la personne qui divorce et la personne qui libère soient vivantes. Donc techniquement, on pouvait pas le faire. Techniquement, on était bloqué. Mais dans le cas de l'argent ici, puisqu'on a dit tout à l'heure que la parole d'une personne qui est agonisante est considérée comme un contrat. C'est considéré comme si c'est écrit dans un contrat. Donc s'il a dit donner, Raksamear, s'il a dit donner à un tel de l'argent, c'est considéré comme si c'était écrit et on donnera. Même si l'argent n'est pas encore arrivé dans la main de l'autre avant la mort, on le donnera, il n'y a pas de problème. D'accord ? Qu'avec ça, on conclut le Perek Rishon, le premier chapitre. Bon, on va s'arrêter ici parce que le temps commence le deuxième chapitre, on n'aura pas le temps de trop développer. Voilà, ça s'arrête ici.